Vous êtes sur RTL.
18h. RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'infos avec vous. À la une, grand entretien ce soir avec Jean-Luc Mélenchon. Le candidat insoumis à la présidentielle sera notre invité de 18h15. L'actualité sociale, revenu d'engagement, climatique, la COP26, la gauche qui plafonne dans les sondages, l'extrême droite qui grimpe. Nous allons prendre le temps d'aborder tous ces sujets avec lui. Les autres titres de l'actualité maintenant à suivre dans votre journal. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Et deux procès à la une, celui des sondages de l'Élysée avec un Nicolas Sarkozy quasi mutique à la barre et celui des attentats du 13 novembre avec un salade d'Eslam loquace sur sa vie et ses conditions de détention. Dans ce journal aussi, la parole aux jeunes sur le revenu d'engagement présenté aujourd'hui par le gouvernement et Lille qui joue sa survie en Ligue des Champions ce soir contre Séville. Les courses dans le Quintet Plus à Chantilly, il fallait jouer le 11, le 12, le 6, le 5 et le 3.
À 18h40, on va défaire le monde. Vos 20 minutes de curiosité, de découverte avec Cyprien Signé à la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Quel est le programme?
Et si 6 milliards de dollars permettaient d'éradiquer la faim dans le monde? Elon Musk est prêt à mettre la main au portefeuille, mais vous découvrirez que c'est pas si simple que ça. Au menu également, le fabuleux destin du futur maire de New York et des coquilles Saint-Jacques qui poussent la chansonnette.
À 19h15, on va refaire le monde, débattre du silence de Nicolas Sarkozy, de l'interview à venir de Jean-Luc Mélenchon et de l'abandon des lignes de train. 6 heures de retard hier soir pour les passagers du Clermont-Paris et visiblement ce n'est pas une première. Et puis des points réguliers sur le temps avec vous Peggy Broche, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance?
Demain un temps plutôt maussade le matin, petite amélioration dans la journée.
On vous retrouve à la fin du journal.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Et Nicolas Sarkozy sera donc resté moins d'une heure au tribunal correctionnel de Paris.
Où il était convoqué comme témoin dans le procès des sondages de l'Élysée. Guillemette Franquet, vous avez suivi l'audience pour RTL. L'ancien président a refusé de répondre aux questions du président du tribunal.
Oui, Nicolas Sarkozy apparaît poline et ferme à la barre. Il ne répondra pas, il n'a pas le droit de répondre aux questions du tribunal, explique-t-il. En effet, selon lui, il est anticonstitutionnel pour un ancien président de témoigner sur des décisions, des actes commis dans l'exercice de ses fonctions. Le juge ne perd pas pied, lui pose une première question. Les mains croisées sur sa cravate noire, Nicolas Sarkozy répond quelques mots, puis rappelle qu'il ne veut pas faillir aux obligations constitutionnelles. Question après question, l'ancien président n'ouvre pas la bouche, sauf pour glisser quelques mots de temps en temps. Il tranche « Si je répondais à vos questions, le principe même de la séparation des pouvoirs n'existerait plus. » Venir au tribunal mais ne pas s'exprimer a été une décision difficile à prendre, se justifie Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas par manque de courtoisie, termine-t-il. Je m'excuse de ne pas avoir répondu aux questions.
Les précisions de Guillemette Franquet pour RTL. Alors, cette convocation devant le tribunal était-elle anticonstitutionnelle? Comme le dit Nicolas Sarkozy, on a voulu ce soir y voir plus clair.
Et alors, comme nous ne sommes pas constitutionnalistes, enfin pas pour le moment, nous avons posé la question à des spécialistes de la Constitution. Et là aussi, la question fait débat. D'un côté, il y a ceux qui estiment que l'ancien président n'aurait pas dû être convoqué, comme Bertrand Mathieu.
En effet, cette immunité, c'est une immunité qui bénéficie de manière générale au président. La Constitution dit que, à la fin de ses fonctions, il ne peut être mis en cause que pour des actes étrangers à l'exercice de ses fonctions, et donc qu'il ne pourrait pas être entendu comme témoin concernant des actes relatif à l'exercice de ses fonctions.
Et de l'autre, il y a ceux qui estiment légitime d'attendre les explications de l'ancien président à l'image de Jean-Philippe de Rosier.
Il est tout à fait parfaitement constitutionnel de demander et de convoquer comme témoin un ancien président de la République. Seul un président de la République en exercice ne peut effectivement pas être requis de témoigner devant quelque procédure que ce soit. Mais dès lors que le mandat a cessé, cet ancien président de la République peut à nouveau être convoqué par les tribunaux.
Voilà, analyse radicalement différente et un débat qui reste donc ouvert. Dans le procès des attentats du 13 novembre, la parole à partir d'aujourd'hui aux accusés, leur parcours, leur personnalité. 4 jours d'audience leur seront consacrés.
Bonsoir Cindy Hubert.
Bonsoir.
Interrogatoire par ordre alphabétique, c'est donc Salah Abdeslam qui a été le premier à retracer sa vie d'avant les attentats.
Oui, l'accusé a pris soin de se faire faire une nouvelle coupe de cheveux pour ce moment. Crâne rasé, barbe toujours fournie. Il déroule sa vie avec un grand sourire. Son enfance, simple, heureuse. Une sœur, trois frères. Brahim, c'est celui que je préfère. Première grimace sur les bancs des partis civils. Brahim Abdeslam s'est fait exploser au comptoir Voltaire le 13 novembre. La famille a toujours vécu à Molenbeek, à Bruxelles. Salah Abdeslam n'est pas mauvais élève, mais il quitte l'école à 18 ans. Je suis quelqu'un qui aime bien travailler, dit-il. Il entame une formation pour devenir taxi, obtient finalement un poste de réparateur de tramway, mais il est incarcéré pour tentative de cambriolage. À l'époque, vous passez tous vos week-ends en boîte de nuit. Je ne dansais pas, rectifie Abdeslam sur le ton de la blague. Vous fumiez du cannabis, vous étiez accro au casino, insiste le président. J'ai été imprimé par les valeurs occidentales, balaye l'accusé agacé, mais ça, c'était avant.
Sa vie d'avant, donc, mais aussi sa vie d'après, hein, Cindy. Salah Abdeslam a aussi été amené à parler de sa vie en prison et de ses conditions de détention.
9 mètres carrés, une plaque chauffante, un frigo, une télé qu'il regarde de temps en temps, 2 heures de vélo et de rameur par jour dans une autre cellule dédiée. Salah Abdeslam voudrait faire des études de français, de mathématiques. En attendant, il lit beaucoup. C'est le seul détenu filmé 24 heures sur 24, rappelle son avocate. Je sais que c'est pour éviter que je me suicide, opine Abdeslam, mais ça vous pousse à vouloir en finir. Même les animaux, ils ne sont pas traités comme ça. Si j'ai tout supporté, c'est grâce au Seigneur.
Cindy Hubert devant la cour d'assises spéciale de Paris. Merci. Eux sont mis en accusation en Suisse pour escroquerie, notamment Michel Platini et Sepp Blatter, l'ancien patron de la FIFA, accusé d'avoir de façon illicite arrangé un paiement de 2 millions de francs suisses en faveur de Michel Platini. La justice doit maintenant se prononcer sur la tenue d'un éventuel procès.
RTL, 18h06, jusqu'à 500 euros par mois contre eux. 15 à 20 heures de formation pour une durée de 6 à 12 mois. Le gouvernement a fini par trancher. Voici le détail du contrat d'engagement destiné aux jeunes de moins de 26 ans les plus précaires.
Et ils seront au moins 400 000 jeunes à être concernés à partir du mois de mars prochain. Insuffisant pour la gauche, les syndicats et les associations. Mesure électoraliste, dit la droite. Et les premiers concernés, eux, qu'en pensent-ils? Vous leur avez posé la question pour RTL, Hugo Hamelin, à l'occasion d'un rassemblement à Marseille de 120 jeunes issus de quartiers populaires et ils sont partagés.
Oui, absolument, sentiment mitigé parce que ce dispositif ne concerne que les jeunes qui sont sans emploi, sans études, sans ressources familiales. C'est trop restreint pour Jawan, 16 ans, originaire de Poitiers.
Bah, ce serait bien que ce soit pour tous les jeunes. Voilà. C'est très très beau sur le papier à voir comment c'est fait. Mais par contre, pour les jeunes qui sont sortis du système scolaire, je pense que ça motivera certains à faire autre chose que traîner dans les rues. Et du coup, je pense que cette aide, ça leur ouvre une porte, c'est une perche qu'on leur tend et je suis même sûre à 100% qu'ils vont la saisir.
Une perche tardive, me dit-on ici, et même une grosse ficelle pour Abdelnour et Zoué, bien conscient du timing politique de cette annonce.
Je sais pas si c'est juste du blabla pour qu'on puisse revoter pour lui après, en fait, parce que c'est bientôt, en fait, 2022, bientôt les réélections.
Et en fait, il fait semblant de dire, ouais, un petit 500 euros par là, un petit 500 euros par ci. Comme elle disait, la garantie jeune, c'est exactement la même chose. Et elle porte pas forcément ses fruits, elle aussi.
Décrochée des études et éloignée d'un emploi, 25 000 jeunes adultes sont de potentiels candidats à ce contrat d'engagement en région PACA.
Le reportage à Marseille d'Hugo Hamelin pour RTL.
Allez, votre journal se poursuit dans un instant sur RTL avec une nouvelle illustration, une de plus, des conséquences du manque de médecins. Et puis le club de foot de Lille qui joue ce soir son avenir en Ligue des Champions. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
18h10, vous écoutez RTL, la suite de votre journal. On vous emmène dans une ville de 50 000 habitants, au cœur d'un des départements les plus touchés par la désertification médicale. Et écoutez bien, à Laval, les urgences seront désormais en partie fermées la nuit.
Oui, 4 jours cette semaine, faute de personnel. En cas d'urgence, les patients devront faire au moins une demi-heure de route. On parlait la semaine dernière de ce chiffre d'un lit sur 5 fermé dans les hôpitaux français. Eh bien, la situation à Laval est une autre illustration de cette crise que traverse notre système de santé pour la chef du service des urgences de Laval, Caroline Brémaud.
On est dans un désert médical et les patients n'ont pas beaucoup de recours autre que le service des urgences. Donc, on a réussi à faire en sorte que la journée en soit opérationnelle. Mais c'est-à-dire qu'à 18h30, on arrête d'accueillir les patients. Et en fait, on invite la population dès à présent à prendre l'habitude toutes les nuits, même les nuits où les urgences sont ouvertes, de faire le 15 avant de se déplacer. On n'a pas réussi à trouver d'autres solutions. En fait, la réserve sanitaire a pourtant été activée. C'est important pour moi que la population soit au courant. Tout le monde est concerné. La santé, ça concerne tout le monde. C'est le système de santé en entier qui s'effondre. C'est pas juste l'hôpital de Laval qui va mal, c'est tous les hôpitaux de France. Donc, Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience collective.
Caroline Brémaud, chef du service des urgences de Laval, jointe par Agathe Landé pour RTL. De nouveaux engagements pour le climat à la COP26. Une centaine de pays, dont la France et les États-Unis, ont décidé de réduire de moins 30% leurs émissions de méthane d'ici 2030. Les suites de la garde à vue de l'acteur Harry Habitant, vous en parlez hier, et on apprend ce soir à Alice Moreno qu'il a été mis en examen pour viol.
Oui, suite à une plainte déposée par une jeune femme samedi soir, les faits qu'elle dénonce se seraient déroulés ce soir-là au domicile de l'acteur près des Champs-Élysées à Paris. Selon les informations du Point, le comédien de 47 ans a imposé des pratiques sexuelles non consenties à cette jeune femme avec qui il entretenait une relation intime. Lui conteste ces accusations. À l'issue de sa garde à vue, Harry Habitant a été présenté à un juge d'instruction cet après-midi. Le magistrat a ordonné sa mise en examen et l'a placé sous contrôle judiciaire, une liberté avec des obligations à respecter en attendant les suites de l'enquête. Le comédien devait normalement se produire dans une salle de spectacle à Troyes demain et après-demain, mais l'établissement a annoncé dès ce matin le report de ces dates.
En précision signée Alice Moreno pour RTL. Et puis ce nouveau record établi ce soir à la Bourse de Paris, façon un sommet de 21 ans, la Bourse qui a terminé en clôture à plus de 6900 points.
Ils n'ont pas gagné le moindre match en Ligue des Champions depuis 2012, mais ce soir, victoire impérative presque pour les joueurs de Lille.
Oui, troisième de leur groupe, les Lillois opposés à Séville après le nul 0 partout à l'aller. C'est sûr, il faudra faire mieux pour ne pas compromettre la suite de la compétition pour le capitaine José Fonte.
C'est un autre match. Si on perd, c'est très difficile. Mais on ne pense pas à ça. On pense qu'à faire un résultat positif et on se prépare pour d'être solide, d'être costaud, compact, avec une victoire. On peut basculer, c'est courir, c'est souffrir et chercher le résultat.
Voilà, le capitaine du LOSC avec Antoine Decarne pour RTL. Séville-Lille à partir de 21h ce soir. Demain, le PSG face à Leipzig sans Lionel Messi, touché au genou et à la cuisse.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Bon, comme on a changé d'heure ce week-end, on va maintenant pouvoir se tourner raisonnablement vers Noël. Et en plus, figurez-vous que les flocons arrivent en montagne. Il y avait déjà les Alpes, mais cette fois, la moyenne montagne est aussi concernée. Le Jura, les Vosges se sont parés de blanc ces dernières heures. Pas encore de quoi skier, mais au moins de quoi faire de première bataille de boules de neige.
Très bien, merci beaucoup, cher Marion. C'est encore un coup de Peggy Broche, ça.
Ben oui, je confirme, c'est vrai, de la neige demain sur les Pyrénées, sur les Alpes, des 1200 mètres. Donc c'est parfait, ça va durer toute la journée. Mais pas que ça, parce qu'on a aussi la perturbation qu'on va retrouver demain matin sur la façade est, donc de la pluie, de la neige en montagne. Ce sera pluvieux également avec de la neige sur les Pyrénées toute la journée. Et puis ailleurs, un ciel de traîne avec plus d'éclaircies sur le nord-ouest. Et dans l'après-midi, dans l'ensemble, la traîne sera moins active. Ça veut dire un peu plus d'éclaircies du sud-ouest au nord-est, un peu moins d'averses, sauf sur les Alpes et en Corse également, où ça restera pluvieux avec un coup de tonnerre possible, comme sur le Pays Basque et les Pyrénées. Et côté température, elles sont proche des normales, un peu fraîche par endroit. 10 à Reims et Nancy, 11 à Paris, 13 à Lyon et Toulouse, 14 à Rennes et 17 à Marseille.
Merci Peggy. On marque une petite pause sur RTL et ensuite nous allons accueillir notre invité. Grand entretien ce soir avec Jean-Luc Mélenchon, le candidat insoumis à la présidentielle. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier. Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr.
Ils sont là.
Julien Sellier,
l'invité d'RTL Soir.
Allez, 18h17, vous écoutez RTL et donc ce soir, grand entretien avec un candidat à la présidentielle.
Ça commence bien, les pubs là, c'était un festival.
Je vois que vous étiez extrêmement attentif aux différentes publicités, Jean-Luc Mélenchon, bonsoir.
Bonsoir.
Député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône et donc candidat à la présidentielle. Avant toute chose, on va aborder Jean-Luc Mélenchon, l'actu toute fraîche, le contrat engagement jeune, on en parlait à l'instant dans le journal parce que c'est le terme officiel désormais. Le gouvernement l'a dévoilé ce matin, l'idée, on la rappelle, une allocation jusqu'à 500 euros pour les jeunes de moins de 26 ans qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de formation. En échange, ils s'engagent justement à être formés 15-20 heures semaine. On parle de 400 000 bénéficiaires. L'idée de départ, c'était 1 million. Ça manque d'ambition pour vous ?
Non, mais j'admire le coup de com'. On ne peut pas faire moins. Il prend deux allocations qui existent déjà. Il les annule. Il en crée une nouvelle qui coûte moins cher. Et tout le monde applaudit en disant « Ah, c'est merveilleux ». C'est fondamentalement quelque chose d'inutile et de mal pensé. D'abord, vous avez dit un dit, je pense que vous avez été précis, c'est jusqu'à 500 euros. Donc, s'il vous plaît, on arrête de dire « Tous les jeunes qui ne font rien auront 500 euros ». Il faut savoir que 500 euros, c'est moins que l'allocation que reçoit un jeune qui est en apprentissage, qui lui a 430 ou 460, je ne me rappelle plus exactement. Donc, vu de l'extérieur, on dit, on va quand même 500 euros pour rien faire. Alors non, on ne va pas rien faire. Ils ont 20 heures par semaine à donner de formation ou de blabla. C'est-à-dire que ça vous fait, à la fin du mois, du 5 euros de l'heure. Tout ça est, à mon avis, tout ça est fait en dépit du bon sens. Que faut-il faire ? Stabiliser le marché de l'emploi, en particulier pour les jeunes. Donc ceux qui sont en fac, que doivent-ils faire ? Étudier, pas aller faire 50 millions de trucs à côté. Donc à eux, il faut une allocation d'autonomie. Et comme ça ne peut pas être réservé qu'aux seuls qui arrivent en fac, parce que socialement, on sait que c'est assez...
que là, on parle de jeunes vraiment... Très loin de l'emploi, complètement décroché.
Oui, bah, très loin de l'emploi, il faut voir pourquoi ils sont arrivés si loin. Mais donc on s'occupe des jeunes d'abord qui sont en fac. Le pays a besoin de matières grises, de gens bien éduqués, de haut niveau de qualification. Rappelez-vous de ça, les gens n'ont rien d'autre que ça, l'intelligence collective. Donc un. Deux, ça ne peut pas être que pour ceux qui vont en fac. Moi je suis partisan du fait qu'on donne une allocation d'autonomie à tous les jeunes qui sont en lycée professionnel. Pour que, parce qu'il n'y a pas d'industrie, tout le monde fait du blabla sur il faut réindustrialiser, vous voulez réindustrialiser avec qui ? Il faut quand même former des gens pour ça. Et aujourd'hui, l'industrie, ça fonctionne, puisqu'on parle de l'industrie, je parle de l'industrie, avec un assez haut niveau de qualification, il ne faut pas croire que c'est juste quelques actes simples. Donc on a besoin d'une main-d'œuvre qui corresponde à tous les étages, de haut niveau, avec un haut niveau de formation technique et culturelle. Donc voilà, moi ma solution c'est 1063 euros pour tous ceux qui sont en fac, mais qui sont autonomes de leurs parents, hein, s'il vous plaît, parce qu'il n'y a quand même pas... bon, il ne faut pas exagérer non plus. Donc ceux qui sont autonomes de leurs parents, et ça je le vois tout de suite, parce que si les parents les déclarent sur leur formulaire d'impôt, ouallou, il n'y a pas de 1063 euros pour eux. Mais pour les autres, oui. Et puis pour les lycéens professionnels, parce que j'adjure qu'on comprenne que l'apprentissage n'est pas une solution de masse. Et vous avez dans les lycées professionnels jusqu'à 100% d'une section qui va travailler le soir pour gagner sa vie et le week-end. Et vous avez des parents, donc des jeunes gens dont on a absolument besoin qu'ils réussissent leurs études. Et s'ils réussissent, tant qu'ils font bac pro, après ils passent en BTS, la vie est belle.
On parle de jeunes là, mais sur le front de l'emploi, de manière plus globale. Vous avez ironisé un peu ces derniers jours sur les chiffres du chômage. Je vous ai entendu parler de propagande, baisse de 5,5% au troisième trimestre. Vous vous dites, baisse en trempe-l'œil. Pourquoi ? Parce que les chômeurs à l'activité réduite sont... plus nombreux, eux, qu'avant la crise ?
Ben oui. Alors, il y a d'abord deux effets. Il faut se rendre compte, parce que tout le monde... Il ne faut quand même pas qu'on ait des mémoires de poisson rouge, quoi. Il faut voir d'où on sort. Nous avons perdu jusqu'à 8, 9, 10 points de production de richesse dans le pays. Hein. On ne va pas discuter de savoir ce qui est une richesse ou pas, de production, d'accord ? Alors, évidemment, ça vous fait un recul incroyable. Et dès que la machine se remet en route, ben vous avez une progression qui paraît, elle aussi, incroyable. Mais 85% des nouveaux emplois sont des CDD, sont des intérims, sont des choses pour quelques jours ou quelques heures. Et par conséquent, ça fait un effet spectaculaire, mais la vie des gens est enfoncée dans la précarité. Et je voudrais qu'on comprenne que c'est important de sortir les gens de la précarité. Parce que, d'abord, leur vie est pourrie, c'est quand même ça qui compte, hein, c'est on n'a qu'une vie. Avoir une vie moins dure, moins soumise aux aléas, de pas savoir une semaine ce que vous ferez la semaine d'après. C'est tellement important. Beaucoup de gens dans les milieux qui sont les nôtres, ici, nous qui sommes sur cette radio, moi comme les autres, hein, nous sommes arrachés à cette angoisse du lendemain qui tenaille des millions de gens. Il y a 10 millions de gens qui sont pauvres dans notre pays. Alors, c'est d'abord la précarité, le grand danger. Moi, je propose qu'on fasse la chose suivante. C'est que, déjà, on commence par rassurer les gens. Il y a 800 000 contractuels dans la fonction publique. Vous vous rendez compte ? C'est des gens, par exemple, sont profs, au mois de juin, ne savent pas s'ils auront un emploi à la rentrée.
Donc on les embauche ?
Oui, on les titularise. Et vous savez pourquoi je dis ça ? Parce que, souvent, ils sont là depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, donc ils font le boulot, ils savent le faire. Alors pourquoi les maintenir dans cette angoisse permanente ? Ensuite, dans les entreprises, il faut qu'il y ait un maximum, par exemple, pour la petite entreprise, pas plus de 10% du personnel en CDD. Et dans la grande entreprise, pas plus de 5%. Rassurer, stabiliser. Les gens, quand ils ont la paye et qu'ils sont sûrs d'en avoir une le mois suivant, bah, ils commencent à vivre. Ils achètent, etc. Et quant aux jeunes, je termine en vous disant ça. Il y avait une très belle idée qui a été appliquée une fois. Je parle dans les solutions d'urgence, hein, parce qu'on ne peut pas non plus tout transformer en un claquement de doigts. C'est l'idée qu'avait eue le gouvernement de Lionel Jospin de faire des emplois jeunes pour 5 ans. Si vous avez un jeune à la maison, vous savez que 5 ans, quand on a 20 ans, bah, faites l'addition, hein. c'est le moment où, si vous avez un emploi garanti, vous préparez un concours, vous préparez quelque chose, vous avez du temps devant vous. Posséder le temps long, c'est devenu un luxe qui est réservé à très peu de monde. Tout le monde est prisonnier du temps court. Donc voilà les solutions que je propose. Mais l'idée, enfin les solutions, vous ne m'avez pas demandé si j'avais des solutions, mais je vous propose quand même. C'est pour vous dire qu'à côté de ça, vous voyez le système Macron, quoi. Alors jusqu'à 500 euros, mais pas plus de 12 mois, et à condition d'aller discuter avec je ne sais pas qui pendant 20 heures. Mais à qui est-ce qu'il va le faire? Ah ben on n'en sait rien, qui c'est qui va discuter. Peut-être les associations. Ah ben non, elles ne veulent pas parce qu'ils n'ont pas de personnel. C'est la chienlit. Le chaos et les mesures qui ne sont pas maîtrisées.
Autre titre d'actualité, Jean-Luc Mélenchon, la COP26. D'ailleurs, à gauche, on voit des candidats qui se rendent à Glasgow, Yannick Jadot ou Enad Hidalgo, entre autres.
On a une délégation d'insoumis, de parlementaires insoumis qui y vont là aussi.
Alors, vous parliez justement de choses qui ne se règlent pas en un claquement de doigts. C'est l'occasion, cette COP, de s'interroger sur quelle énergie pour demain. La France, comme d'autres pays, est à un carrefour. Au moment où les gens ont du mal à se chauffer, à payer leur plein, la présidentielle, elle va aussi servir à définir quel choix pour les 30-40 prochaines années.
Fait.
Emmanuel Macron pourrait annoncer la construction de nouveaux EPR dans les jours à venir. Vous vous dites, ce n'est pas la solution.
Ah non, c'est clair. Mais déjà, commençons par parler un peu de cette COP, juste une seconde. Bon,
elle sert à quelque chose ou pas? Parce qu'il y a Arthus Bertrand qui était à votre place vendredi dernier, dit... Ça ne sert à rien, la COP.
Ben, la vérité, c'est que ça m'ennuie de le dire, mais ça ne sert pas à grand-chose. Alors, les pays parlent. Quand on a eu la COP à Paris, tout le monde était fin content parce que ça y est, on avait pris des décisions. Moi, j'avais regardé un peu en détail et disons que je souriais jaune parce qu'on avait commencé par dire, bon, ben, 2,5 degrés, pas plus. Hein. Alors, tout le monde signe, oh, formidable, applaudissements généraux. Et arrivent les chefs d'État des îles qui disent, ben, écoutez, nous, on ne peut pas signer ça parce qu'à 2,5 degrés, nous, on disparaît, on est noyés. Alors, on a dit, bon, 2,5 degrés ou 1,5 degré, l'objectif. Et quand les pays ont chacun rempli leur feuille pour dire ce qu'ils comptaient faire, ça donnait 3,5 degrés de plus. Donc ça collait déjà pas dès le début. Qu'est-ce qui va pas là-dedans? C'est que vous pouvez raconter ce que vous voulez, il n'y a aucune mesure contraignante. C'est la raison pour laquelle je pense que si on introduisait de l'obligation et de la contrainte, on aurait un résultat. Pourquoi? Ben prenons un exemple tout bête, la Bolivie a proposé un tribunal climatique international. Si on trouve que c'est trop compliqué à faire, il n'y a qu'à donner au tribunal pénal international le pouvoir de poursuivre les crimes d'écocide. Si on trouve que tout ça est trop compliqué, il y a un cadre juridique qui est en train de se discuter à l'initiative de l'Afrique du Sud ou de l'Équateur pour obliger les multinationales à respecter l'environnement et les droits sociaux. Mais je voudrais dire qu'écoutez, tout ça est quand même très choquant. Il y a ce blabla. Il y a le G20 qui a eu lieu avant, autre blabla, et pendant ce temps, les gens sont en train de mourir à Madagascar pour la première fois dans l'histoire, vous avez une famine qui est directement liée au changement climatique. Que font les États? Je termine là-dessus. Rien. C'est donc une association qui a dû le faire, Action contre la faim, et qui a ramassé 1 million sur Twitch. Alors que les gens qui m'écoutent, s'ils veulent faire quelque chose d'utile, là déjà, c'est d'aider Action contre la faim, parce que c'est une situation qui est insupportable. Je peux en dire encore un mot?
Allez-y.
Bien, il y a 1500 scientifiques qui ont proposé qu'on fasse un traité international de non-prolifération des énergies carbonées fossiles.
Hein.
Un peu comme il y a un traité de non-prolifération du nucléaire. Cette proposition, je la soutiens. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et nous autres, les Français, notre pouvoir, c'est pas d'aller faire les malins, les kékés, en disant « Oui, tout le monde revient dans 15 jours avec sa copie refaite », comme a fait M. Macron, parce que ça ne tient pas debout. Lui-même a été condamné 2 fois par un tribunal pour ne rien faire. Donc, c'est pas de gesticuler comme ça, c'est de proposer du droit international et les moyens de le faire appliquer. Nous autres Français, c'est notre force de dire quelque chose qui tient la route sur le plan juridique. L'humanité est plus humaine quand elle fabrique du droit international qu'elle décide d'appliquer.
Jean-Luc Mélenchon, vous restez avec nous. On va marquer une très courte pause. Vous avez apprécié les pubs précédentes, donc vous apprécierez celle-ci. nous allons reprendre ce grand entretien dans RTL Soir juste après ça. On se retrouve dans un instant.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier,
l'invité d'RTL Soir.
18h31 ce soir, notre invité est donc l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. Nous poursuivons notre grand entretien avec le candidat à la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, je voudrais votre regard sur le paysage politique actuel parce qu'on est à 6 mois de la présidentielle. Alors certes, les sondages sont ce qu'ils sont, vous n'aimez pas franchement les commenter. Dans le dernier BVA RTL, vous êtes à 8%. Un Français sur deux n'a toujours pas choisi. C'est ce qu'on lit aussi dans cette étude BVA-PRTL. On peut changer d'avis. Donc quand vous dites « je serai au second tour », ça veut dire que vous êtes persuadé que vous allez pouvoir aller chercher les indécis pour remonter dans les études ?
Parce que dans le sondage que vous évoquez, les sondages, ils me mettent entre 8 et 12, ça suivant des semaines. Mais il faut regarder le détail. Qu'est-ce qu'ils disent ? Et c'est ça que vous devriez discuter. C'est que le dernier qui est paru, 53% de participation. Vous imaginez une présidentielle en France avec presque 1 sur 2 qui ne va pas voter. Ça veut dire que le pouvoir qui sortirait de ça n'aurait aucune légitimité et le chaos sera encore plus grand. Donc, à partir de là, que se passe-t-il ? Qui ne va pas voter ? Qui ne sait pas s'il va voter ? Les milieux populaires, il ne faut pas tourner autour du pot. Donc, ces sondages, ce n'est plus des sondages, c'est un rêve. C'est le rêve quand le peuple ne s'occupe plus des affaires politiques. Alors voilà, ça y est, on est tranquille, on est débarrassé de tous les casse-pieds avec leurs questions qui sont combien je vais être payé, comment je paye le chauffage, est-ce que je vais avoir du service public, est-ce que je vais être soigné à l'hôpital, c'est-à-dire l'expulsion de toutes les questions sociales.
Est-ce que vous avez une stratégie pour aller chercher ces abstentionnistes parce qu'on se souvient, il y a 5 ans, vous aviez labouré le terrain, vous avez multiplié les meetings. Est-ce que vous avez prévu déjà des meetings
Mais c'est ça. Alors d'abord, il va y en avoir, notamment un le 5 décembre prochain.
Paris ?
Alors, on va peut-être le faire, à Paris. L'idée, ou à Lyon, je ne me rappelle pas ce qu'on a décidé, c'est un des deux. Mais surtout, ce qui sera important, c'est que ça va être un moment d'union populaire, où vous allez voir apparaître, pour la première fois, des figures, mais pas de la gauche politique, parce que là, tout le monde tourne en rond et raconte les mêmes trucs, les uns contre les autres, mais de la gauche sociale, la gauche associative, parce que c'est elle qu'il s'agit de rassembler, parce qu'elle, elle a une capacité d'entraînement sur la société. Mais l'essentiel, c'est que nous allons... Alors, c'est un peu cruel quand vous me dites, est-ce que vous allez faire des meetings ? On n'arrête pas. On fait des caravanes populaires. Tous les week-ends, vous avez des insoumis partout et qui vont à l'endroit qui compte. Pour nous, c'est les milieux populaires. Les gens, occupez-vous de vos affaires. Si vous ne vous occupez pas de vos affaires, si vous n'allez pas voter, c'est toujours les mêmes qui resteront en place. Et vous aurez encore, vous allez être encore là à gémir et à vous plaindre et à vous dire ben, on nous a enlevé jusqu'à la peau. Mais ils ne s'arrêteront pas, même à la peau, s'ils peuvent en enlever davantage. Donc, allez voter, occupez-vous de vos affaires, faites de la politique, parce que sinon la politique s'occupe de vous.
Dans ces mêmes sondages, l'extrême droite n'a jamais été aussi forte en termes d'intention de vote. Et on sent la classe politique un peu embêtée face à la percée d'Éric Zemmour. À gauche, Anne Hidalgo sur RTL avait un avis très tranché ce week-end. C'est un guignol, je cite, on ne débat pas avec lui. Vous avez choisi de débattre avec lui à la télé. Est-ce que la confrontation, c'est la bonne méthode ? Parce que après ce débat, on n'a pas vu les courbes d'Éric Zemmour fléchir dans les sondages.
Non, dis donc, ça aurait été fantastique, mais il fallait qu'il y ait ce débat. Alors d'abord, commençons par dire que la classe médiatique devrait aussi assumer sa responsabilité. 230 articles de presse par jour depuis le 1er septembre sur M. Zemmour, sans compter les heures de télé et le reste. Donc, on peut dire qu'il y a là, un effet d'entraînement, de système. Je ne veux pas parler de complot, parce que... mais ce n'est pas un complot. Mais il y a un effet qui existe. Il y a un matraquage que tout le monde voit. Il suffit d'allumer sa télé pour s'en rendre compte ou d'ouvrir un journal, n'importe lequel. Alors, après, comment faire face à ça ? Mais il n'y a pas 50-7. Quand on est un démocrate, vous voulez faire quoi ? Il faut discuter, il faut convaincre. Moi, pourquoi je suis allé débattre avec M. Zemmour ? Parce qu'il fallait que quelqu'un relève le drapeau. On n'entendait que lui. Il racontait ce qu'il voulait. Et puis alors, évidemment, toute la bonne société regardait de haut en disant tout ça. Bon. Mais vous vous rendez compte que dans la profondeur du pays, il y a des gens qui ont peur. Des jeunes qui sont venus me dire « Mais M. Mélenchon, si Zemmour gagne, est-ce que je vais pouvoir rester en France ? Et sinon, je vais aller où, moi ?» Voilà. Oui, il y a des gens qui ont peur à cause de M. Zemmour. Il y a des gens qui ont peur à cause de l'extrême droite. Et moi, ce que j'ai fait, c'est de dire, écoutez, ne croyez pas que tout le monde va laisser faire ce type. Alors, quelles sont les façons de faire ? Moi, j'ai tout essayé. J'ai l'âge, d'accord ? Je me rappelle du début de Le Pen. On voulait l'interdire. J'ai fait campagne avec Charlie Hebdo. Ni le PS, ni le PC, ni personne ne voulait interdire. On a dit, il faut utiliser la voie démocratique. Il faisait rien. Ça s'appelait le harcèlement démocratique. C'est M. Cambadélis qui avait inventé ça. Chaque fois que M. Le Pen arrivait quelque part, on allait crier devant la porte. On l'a fait. Ça a servi à quoi ? À rien. Donc moi, j'ai changé de pied en me disant, puisque ça sert à rien, on va essayer de convaincre. Et ça a eu un grand impact, les contacts que j'ai eus avec Mme Le Pen. Et je redis, je suis prêt à tout moment à recommencer à discuter avec M. Zemmour et à recommencer à discuter avec Mme Le Pen publiquement. Pourquoi ? Pour que des millions de gens se disent, ces gens-là ne feront pas ce qu'ils veulent. Et puis qu'ils entendent d'autres arguments. Qu'ils entendent pourquoi la plupart des choses que dit cet homme correspondent à une image de la France complètement rancie et moisie qui n'existe pas et n'a jamais existé. Une France fermée sur une mythique identité, ça n'a jamais existé. De toute l'histoire de France, depuis, si on veut situer le territoire de, aujourd'hui de la France, ça fait 2000 ans que ça n'existe pas. Ça s'est construit. Nous sommes de toutes les religions, de toutes les couleurs de peau. Nous avons changé notre manière de parler, nous avons changé notre langue, et ainsi de suite.
Pour terminer, je voudrais aussi revenir sur vos propos qui ont fait parler ce week-end, parce que la semaine passée, on vous a demandé justement sur Éric Zemmour s'il était antisémite. Vous avez eu cette réponse. Je ne sais pas, je ne crois pas, il reproduit beaucoup de scénarios culturels, on ne change rien, on ne bouge pas, tout ça ce sont des traditions qui sont beaucoup liées au judaïsme. Fin de citation. Vous avez été accusé d'antisémitisme par certains hommes politiques ce week-end,
ouais.
Vous avez expliqué que vous aviez la nausée sur les réseaux sociaux,
ah ouais, j'en ai
et
marre,
vous avez admis que
parce
vous étiez...
que tout est bon, non mais attendez, que, voilà,
mal exprimé.
Non, j'ai pas.
Qu'est-ce que vous avez voulu dire ?
J'ai voulu dire, je vais vous faire plaisir, que. Non, mais enfin, arrêtez, vous me faites suer à la fin. Chaque fois que je vous ouvre la bouche, j'ai droit à une cohorte de gens du printemps républicain qui me sautent dessus pour couper les cheveux en quatre. Et pour me faire dire, je demande qu'on tienne compte de ce que je dis, pas de ce qu'interprètent mes adversaires. Moi, dans la vie politique, j'ai toujours distingué, j'étais jamais d'accord pour qu'on déduise un comportement individuel d'une religion. D'accord ? J'ai toujours dit. J'ai dit pour les musulmans, à propos du terrorisme, je l'ai dit à propos du christianisme, quand ce type a tué 90 personnes au nom du Christ, j'ai dit ce truc-là n'a rien à voir avec la religion. Bon, bref. Là, c'est pareil. Pourquoi j'irais dire que M. Zemmour est une expression du judaïsme ? Ce que je veux dire, alors je l'ai précisé, puisqu'il faisait semblant de ne pas avoir compris, c'est que dans toutes les religions, vous avez des ailes traditionalistes qui veulent rien changer à rien. Bon, voilà, point. Et ça existe dans toutes les religions et dans tous les milieux. Alors, bon, vous me donnez l'occasion de le redire, mais ce que je voudrais qu'entendent les auditeurs, c'est comment des gens fabriquent une campagne qui est systématique pour taper un homme, toujours au même endroit, pour lui fabriquer une réputation. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que l'accusation d'antisémitisme absolument gratuite, qui est le contraire de ce que j'ai fait toute ma vie, si c'était qu'en France, je me dirais, ben mon gars, faudrait peut-être vérifier ta manière de parler, mais c'est que dans tous les pays du monde, on fait le procès d'antisémitisme aux leaders de ce qu'on appelle la gauche radicale. Donc, moi, je demande aussi que là, on baisse tous un peu de ton, quoi. Ça sert à rien de grimper dans les tours pour un oui, pour un non, et de s'inventer des antisémites. Pourquoi il n'y en a pas assez comme ça ? Il faut en inventer d'autres. Tout ça est ridicule. Enfin bon, vous ferez bien comme vous voulez, mais moi, j'ai dit que j'en avais marre, parce que c'est le énième procès qu'on me fait à partir d'un mot, d'un poil qui dépasse ou d'un cheveu.
Merci Jean-Luc Mélenchon.
Merci à vous de m'avoir donné l'occasion de dire tout ça ce soir.
D'avoir été ce soir notre invité.
Alors le 5 décembre, les gens se préparent à venir au meeting que je tiendrai à Paris.
Paris, très bien.
C'est Paris, oui.
C'est bien,
ça me revient que
ça vous revient.
Lyon, c'est une autre date.
À 6 mois du premier tour, merci d'avoir été notre invité ce soir.
À 6 mois du premier tour, il n'y a qu'une chose à faire. Parler de programme et de proposition, je l'ai fait ce soir chez vous. J'espère que ça va marquer l'ambiance.
Merci d'être venu ce soir sur RTL. On marque une courte pause, ensuite RTL Soir va se poursuivre. On va défaire le monde avec notamment cette question. 6 milliards de dollars pour mettre fin à la faim dans le monde. C'est suffisant ? C'est la somme proposée par Elon Musk.
RTL Soir.
Avec Julien Cellier.